Chapitre 61. 1999. Nina rentre chez elle. Personne. Un soulagement. La cuisinière, c'est ainsi qu'elle appelle désormais Nathalie, est partie faire des courses. Emmanuel ne revient que dans 2 jours. Elle pose la sacoche de courrier sur la table de la cuisine. C'est comme un trésor qui pénétrerait à l'intérieur d'une maison morte. Au début, Nina trouvait extraordinaire de retrouver les sols et les moquettes propres, son linge repassé et rangé dans les armoires, ainsi que les repas fumants sur la table. Mais ce luxe a un revers. Aucune intimité. La cuisinière entre et sort de chez eux sans frapper. Nina peut la retrouver au milieu d'une pièce à toute heure. Combien de fois a-t-elle sursauté en tombant nez à nez avec l'autre, un chiffon à la main? Elle ne peut plus la sentir. Il lui arrive même de souhaiter sa mort. Nathalie a l'âge de partir à la retraite, mais Nina sait que jamais elle ne se décrochera de son rocher. Emmanuel Damam. Nina est persuadée que son mari lui demande de la surveiller lorsqu'il s'absente. « Je compte sur vous, je vous confie Nina, elle est si jeune. » Jeune ou inconséquente? Quel mot emploie-t-il? Nina a bien essayé de dire à Emmanuel qu'elle aimerait que Nathalie s'annonce avant d'entrer chez eux, mais il l'a rabrouée en souriant. Elle fait partie des meubles. Elle est fidèle. C'est une perle. La chance qu'on a de la voir. Arrête de faire des caprices. Au fond, tu es trop gâtée. Nina imagine son quotidien si elle tombait enceinte. Et cette perspective la glace. La cuisinière serait sur son dos toute la journée si elle avait un bébé. Elle ne le supporterait pas. Et puis, avoir un enfant de lui, ce serait s'enfermer à tout jamais. Désormais, elle garde au fond d'elle une petite lueur d'espoir. Celui de se sauver un jour. Pas simplement partir, mais se sauver. Cette pensée la terrorise. Mais elle existe. C'est la possibilité d'une île. Même si aujourd'hui, cette île lui paraît inaccessible, le voyage est réalisable. Un jour peut-être. Pour tenir, elle boit au minimum 3 verres par soir. Elle a conscience de se détruire, mais ne trouve pas d'autre palliatif. L'alcool rend l'insupportable supportable. Il l'aide à appréhender le retour d'Emmanuel. Elle avale le premier verre à partir de 17h, un verre chargé. Le deuxième à 18h. Le troisième une demi-heure après. Ainsi, quand Emmanuel arrive, Nina a l'air radieuse en suçant un bonbon. Dîner, échange de mots enjoués, masque souriant sur le visage, lui faire croire que tout va bien, que la vie est belle grâce à lui. Puis ils montent se coucher, toujours ensemble, ses pas dans les siens. Et une fois dans leur chambre, elle sait qu'il la regarde avaler les médicaments qui sont posés sur sa table de nuit, ceux qui stimulent son ovulation. Elle attend le bruit de la brosse à dents électrique d'Emmanuel pour prendre une de ses pilules contraceptives. Elle ne garde jamais les plaquettes. Elle les fait renouveler chaque trimestre par un médecin. Le plus retiré du centre de la Comelle. Un toubib qui ne pose pas de questions. Elle paye ses consultations en espèces et ne se fait pas rembourser. Lorsqu'elle sort de la pharmacie, elle vide les plaquettes et glisse les pilules dans une pochette avec ses granules d'homéopathie, aspirine et baume à lèvres. C'est ce mélange improbable d'hormones et d'alcool qui la défigure et la fige jour après jour. Elle lutte en se détruisant, mais elle lutte tout de même. Elle ne peut en parler à personne. Elle n'a plus d'amis. Étienne et Adrien sont partis. Louise aussi. Avant, il y avait Joséphine. Une tasse de café ensemble, c'était galvanisant. Mais maintenant, c'est fini. Marie-Laure et Marc Beaulieu sont absents toute la journée, occupés par leur travail. Et depuis qu'Emmanuel a repris les rênes de la société, ses beaux-parents reviennent rarement du Maroc. Jay appelle Nina chaque semaine. Elles échangent des mots creux, quelques titres de romans à lire, une distance polie et chaleureuse. Mais comment dire à une mère que son fils est un brin désaxé, possessif à en faire crever sa femme? Ne reste que ces week-ends une fois par mois où des amis débarquent de Lyon, mais ce sont ceux d'Emmanuel, pas les siens. Ils sont plaisants, agréables à recevoir, toujours gentils avec elle. Mais une fois rentrés chez eux, jamais ils ne lui manquent, contrairement à Étienne et Adrien. Elle caresse à nouveau la sacoche de son grand-père, finit par l'ouvrir en observant ses doigts bouffis. Comment a-t-elle pu tomber si bas, accepter d'avaler ses traitements, qui ne traite rien d'autre que le vide du couple qu'elle forme avec Emmanuel. Les enveloppes blanches ont légèrement jauni. Plus d'une centaine de lettres et cartes postales. Toutes portent le cachet du 11 août 1994, la veille de l'accident. 5 ans que des mots dorment à l'intérieur, des phrases que l'on s'envoie en été pendant les vacances. Il faudrait qu'elle aille les distribuer les unes après les autres. Du courrier que l'on trouve avec 5 années de retard dans sa boîte aux lettres, cela n'est sans doute jamais arrivé. Il faut commencer par cacher la sacoche, que ni Emmanuel ni la cuisinière ne tombent dessus. Quelque part dans sa chambre, derrière ses robes dans le dressing? Non, trop risqué. Le seul endroit de la maison où Nina peut s'enfermer à clé est la salle de bain attenante à la chambre. Son havre de paix lorsqu'elle prend un bain en lisant. Elle a l'idée de vider le contenu, sauf les factures dont elle se fiche, à l'intérieur de 3 grandes serviettes éponges qu'elle replie et dissimule soigneusement derrière d'autres, sur l'étagère au-dessus de la baignoire. Puis elle retourne à sa voiture pour planquer la sacoche dans le coffre qu'elle verrouille. Elle se fait l'effet de vivre comme un repris de justice en liberté conditionnelle. Elle se demande à présent si son grand-père l'autoriserait à lire les lettres. Est-ce qu'il y a prescription? Elles étaient destinées à finir là, sur une étagère de chez Damam, à ne jamais être distribuées, ni lui a fortiori. Comment recevoir un signe de lui? Ou regarder pour savoir s'il consent ou pas? Le téléphone sonne. C'est à nouveau Adrien. 2 appels le même jour quand elle entend de moins en moins souvent le son de sa voix.
« Tu l'as trouvé ?»
demande-t-il, impatient. « Oui. »«
Personne n'y avait touché ?»«
Non. »«
Incroyable. Où tu l'as mise ?»«
Dans le coffre de ma voiture. »«
Il y a du courrier à l'intérieur ?»«
Oui, beaucoup. »«
Tu vas lire les lettres ?»«
Je sais pas. Je suis plus une gamine. Et puis c'est du vol. »
C'est pas du vol, c'est un emprunt. C'est comme emprunter une vieille histoire à quelqu'un avant de la lui rendre.
Tu ne disais pas ça avant?
Avant, c'est passé. C'est un cadeau que ton grand-père te fait maintenant. Sinon, j'en aurais pas rêvé.
Tu crois?
Oui.
Si je finissais par venir à Paris, tu m'aiderais?
Pourquoi? Ton mariage bat de l'aile?
Il l'a demandé sur un ton suffisant. Sous-entendu, je te l'avais dit. Non, je demandais comme ça. Adrien reste silencieux. Un silence gêné que Nina finit par rompre. Tu te rends compte? C'est bientôt l'an 2000. Je crois qu'on est en train de se perdre de vue, Adrien.
Mais non, Nina. Arrête de t'angoisser pour rien.
Lui répond-il, presque agacé. Je m'angoisse pas pour rien. Tu crois qu'on sera ensemble pour le nouvel an?
Je sais pas encore. Faut que j'y retourne là, je suis pas tout seul.
D'accord, mais Adrien... Jure-moi qu'on sera ensemble pour le nouvel an 2000.
Je te le jure, Nina.
C'est vrai?
Vrai.
Je t'embrasse.
Bisous.
Elle retourne dans la salle de bain, s'enferme, fait couler l'eau dans la baignoire, attrape une des 3 serviettes, la déplie. Des dizaines de lettres tombent sur le carrelage. Elle en prend une au hasard, promène l'arrière de l'enveloppe au-dessus du robinet d'eau chaude, parvient à la décacheter sans la déchirer. Nina découvre un billet de 20 francs glissé entre 2 feuilles. Ma petite cocotte, bon anniversaire. Tu t'achèteras ce que tu veux. J'espère qu'il fait beau. Ici, on étouffe. J'ai mal aux jambes. Dehors, faut pas que tu oublies une bassine d'eau pour les oiseaux. Ta mémé qui t'aime. Nina referme l'enveloppe et la met de côté. Elle ira la glisser plus tard dans la boîte aux lettres de Rachel Marek, 6 rue de la Pépinière. Comme Emmanuel ne rentre pas ce soir, elle distribuera ce qu'elle lit au fur et à mesure lorsqu'il fera nuit. Sauf les mauvaises nouvelles. Avec 5 ans de retard, cela ne servirait à rien. Nina ouvre et referme d'autres enveloppes. En fait un tas pour la distribution de ce soir. Elle lit les lettres à voix haute, comme si son grand-père était près d'elle et qu'elle partageait les mots avec lui. Il arrivait à Pierre Beau de lire leur courrier aux gens qui le lui demandaient, pour ceux qui ne savaient pas ou qui ne comprenaient pas un document administratif. Facteur, qu'est-ce que ça veut dire? Il est 21h lorsqu'elle démarre sa voiture. 20 d'enveloppes posées sur le siège passager. Elle sait qu'après-demain, la cuisinière racontera à Emmanuel qu'elle est sortie après le dîner. Alors, pour anticiper les questions insidieuses entre la poire et le fromage, elle a raconté à Nathalie qu'un pot était organisé à son cours de gym pour l'anniversaire d'un de ses profs. Son cours de gym, tu parles. plus de 2 ans qu'elle n'y a pas mis les pieds. Mais elle continue à payer son abonnement pour 2 séances par semaine. Elle se gare devant le gymnase et va marcher seule le long de la rivière. Elle reprend le chemin que son grand-père aurait dû faire ce jour-là. Elle part de la place Charles de Gaulle, là où il a trouvé la mort. Son intuition était bonne. Pierre arrivait de la rue Saint-Pierre et non de la rue Jean Jaurès. C'est le camion qui lui a grillé la priorité. Le chauffeur a menti. Mais est-ce qu'on ne ment pas tous ? Un seul destinataire a déménagé. Le nom a été arraché de la boîte aux lettres. Les volets sont fermés et les mauvaises herbes ont mangé le gravier. Nina glisse tout de même la carte postale que Jacques Laurent aurait dû recevoir le 12 août 1994. Mon Jaco. En remontant du midi, je m'arrêterai te voir dans ton trou. J'ai hâte qu'on aille pêcher tous les deux vu qu'il n'y a que ça à faire par chez toi. Commence à mettre de la bière au frais et nettoie le barbecue. J'apporterai ma gratte comme mon beau vieux temps. Bisous mon poteau, Sergio. À 23h, Nina arrête sa tournée. Elle remonte chez elle, la mort dans l'âme. Elle vient d'accomplir les gestes que son grand-père aurait dû faire ce jour-là. Des gestes tués par un putain de camion. Il lui reste encore 100 d'enveloppes à distribuer. En attendant, elle monte se coucher, tranquillisée par l'absence d'Emmanuel. Avant, lorsqu'il était en déplacement, il lui téléphonait toutes les heures.
« Ça va, mon amour ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu es habillée ? Tu me manques. »
Maintenant, il appelle pour dire qu'il est bien arrivé, et puis plus rien. À Noël dernier, il lui a offert un téléphone portable. Comme ça, on pourra se joindre tout le temps ? Le cauchemar. Être joignable tout le temps. Qui peut bien avoir envie de cela ? Elle aurait préféré qu'il lui ramène un chien. Réponse : non, avec le bébé, ce ne serait pas hygiénique. Et puis, Nathalie a assez de travail comme ça. Tu imagines des poils de chien à la maison ? Parce que, avec toi, il aurait le droit de monter sur les canapés. Après la mort de Joséphine, Emmanuel a vendu la maison de son grand-père. Elle ne sert plus à rien. Et ses 2 chats sont partis chez les Beaulieu. Pas question de les récupérer ici, tu sais que je suis allergique. Marie-Laure a promis à Nina qu'elle en prendrait soin. Allongée dans son lit, Nina irait bien refaire un tour dans la salle de bain, déplier une autre serviette, laisser tomber les enveloppes sur le sol, convoquer l'esprit de son grand-père, repartir en août 1994, quand Étienne et Adrien lui tenaient encore la main.